Alors, on n'a pas du tout fait exprès, mais c'est juste pour, je pense, c'est un petit clin d'œil du ciel, là. On est vraiment en famille. Déjà, on est toute petite famille aujourd'hui. Plus le culte, c'est la famille, parce qu'il y avait mon gendre aux paroles, ma fille à la louange, mon frère à la présidence. Donc vraiment la famille, famille, famille. Hein. Alors, et puis là, on est vraiment aussi en famille, on est entre nous, famille, voilà, famille, famille, famille. Alors, bah oui, parce que le thème, c'est... Alors là, j'ai dit, Seigneur, tu es sûr que je suis la bonne personne, parce que quand même, c'est le sujet, c'est le Père. Alors, le Père, bon, juste un petit historique personnel, moi, je suis une Française normale. Française normale. Ça veut dire, je me suis convertie à 20 ans, j'ai rencontré Jésus. Waouh ! Le coup de cœur, le coup de foudre, enfin, tout ce que vous voulez, Jésus. Pom, pom, pom. Jésus, 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 Jésus. Après, 3 ans après, autre coup de cœur, le Saint-Esprit. Formidable, 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 formidable. Il m'a changé ma vie, il a révolutionné tout dans la famille, le Saint-Esprit. Hein. Voilà, voilà. J'ai eu le mari, le baptême du Saint-Esprit le même soir, pom, comme ça. C'était vraiment formidable. Et puis après, il y a eu, j'ai cheminé avec le Saint-Esprit et Jésus. C'était vraiment super, super, super. Toutes les facettes de Jésus, enfin plusieurs facettes. Le Saint-Esprit, on est allé à Toronto, c'était pas trop la bénédiction du Père pour moi. Moi, j'ai pleuré, pleuré, pleuré. Tous les autres riaient, moi, je pleurais. Enfin, c'était un peu en décalage. Hein, quoi ? Ah oui. Donc, bon. Et puis, il manque quand même une personne dans la Trinité. Où est-ce que je veux dire ? Bah oui. Mais ça m'allait très bien. Jésus et Saint-Esprit, ça me suffisait, quoi. Hein. Bon. Mais je crois que ce n'était pas suffisant du tout, pour les deux déjà. Jésus et Saint-Esprit n'étaient certainement pas d'accord avec ça. Et puis, il se trouve que, Nadine est là, hein, il y a eu au début des sozo, j'avais besoin, un petit besoin de quelque chose, donc j'ai demandé un sozo pour un point précis, dont je ne me rappelle absolument pas d'ailleurs. Voilà, j'avais besoin. Là, par contre, je me rappelle ce qui s'est passé. Vous savez, on dit Saint-Esprit, tu montres, tout ça. Et puis, quelqu'un de l'équipe m'a dit, dans l'esprit, hein, tout ça, je prierai, j'étais dans la prière, tout ça, comment tu vois le Père ? Et je me suis entendu dire... un Baal. Baal. J'étais choquée. Hein. Mon esprit, mon intellect n'était pas du tout d'accord. Théologiquement, pas d'accord du tout, du tout. Je connaissais ma Bible, tout ça quand même. Ça faisait pas mal d'années de conversion quand même. Hein. Mais la vraie chose qui était en moi, Baal. Et dans la même minute, j'ai vu, c'était générationnel, j'ai vu des fils et des fils de femmes de ma lignée générationnelle, ancestrale et auvergnate et alsacienne, je suis les deux là, qui ployait sous le joug d'un maître dur et exigeant, le maître religieux, vous voyez ce que je veux dire, le dieu de la religion, qui leur imposait, fatigué, pas fatigué, tu vas à la messe, et tu fais les vêpres, et si, et ça, des générations entières, et j'ai vu ça instantanément, hein, cette longue lignée de femmes courbées, ployées, sous un joug dur d'un maître exigeant, vous voyez ce que je veux dire, et puis bien sûr, on a traité ça, et ça a été un démarrage, on va dire, d'un processus qui est loin d'être fini, très très loin d'être fini. Et puis je pense que beaucoup parmi vous, vous avez lu La Cabane. Et puis, je sais, au fond de moi, je sais. Vous savez, il y a une partie du trajet de cet homme, le héros de La Cabane. Le Seigneur dit, t'as besoin du Père maintenant. T'as besoin du Père. Et là, je crois qu'à tous nous tous, le Seigneur dit, pour ce qui est devant, vous avez vraiment besoin du Père. Vous avez besoin du Père. Oui, oui, Seigneur. Et là, si vous voulez, il y a un processus dans cette long cheminement où je suis en processus. Hein, je suis loin d'avoir tout fini, mais c'est quelqu'un d'absolument, fabuleusement extraordinaire. Et là, je dis, waouh, Seigneur, c'est trop. Waouh, 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 c'est énorme. Donc, je voudrais vraiment vous dire que le Père, si au cas où vous êtes comme moi dans Jésus ou le Saint-Esprit, bon, il y en a qui ont très, très peur du Saint-Esprit. Bon, il y a encore d'autres choses. Mais là, non, c'était le Père, c'est... c'est quelque chose d'énorme. Alors voilà, je vous dis juste où j'en suis. C'est en cours de processus. Et je pense que, en tant que Française normale, je suis représentative de beaucoup de Français normaux qui ont un gros, gros problème avec le Père. Il y a pas mal d'années, à un séminaire Mathurin Cordier, Luc m'avait demandé de faire une étude, une présentation sur la littérature, le cœur du Père dans la littérature. Catastrophique, catastrophique. C'était la douleur d'une plaie à vif, quoi. Le père, dans la littérature française, c'est une âme qui crie sa souffrance, sa révolte, son mal-être. Enfin, c'est terrible, terrible, terrible. Le père dans la littérature française. Donc, c'est l'expression d'une âme collective, celle de la France. Voilà, voilà, tout ça pour dire qu'on vient de loin quand même, nous les Français. Mais le père, la bonne nouvelle, c'est qu'il aime ce pays d'un amour incroyable. Et il y a quelqu'un quand même, on a un chantre, je dis ça pour l'équipe d'adorateurs, il y a un chantre qui a compris quelque chose du cœur du père, c'est Samuel Olivier. Hein. Il a écrit des chants sur le père, au moins deux là, qui sont, waouh, quelle révélation, quelle révélation. Et il y a un titre, vous savez, intime, étranger. C'est tout à fait ça. Il est intime parce qu'il veut demeurer en nous, il a dit, Jésus, enfin le Père et moi, nous demeurons en vous. Enfin, il y a des mots très forts dans la fin de Jean. Hein, il veut faire de nous sa demeure, c'est très très fort. Et en même temps, il est tellement grand, tellement autre, a des pensées tellement supérieures aux nôtres, on ne comprend pas du tout ce qu'il fait. Enfin, vous voyez, c'est intime, étranger, il a tout compris, Samuel Olivier, par rapport à ça. Donc, il y a le Père. Et alors, vous connaissez tous la grande prière d'Éphésiens 3. À cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père. Je vous la conseille d'apprendre par cœur, celle-là, elle est tellement extraordinaire, duquel tire son nom toute famille dans les cieux et sur la terre. Vous avez après toute la liste, mais à cause de cela, c'est quoi à cause de cela? Parce que si vous regardez juste avant, Éphésiens 2, la fin, c'est pas ça du tout. Éphésiens 2, non, c'est pas à cause de ce qui précède juste avant, pas du tout. Et les petites notes nous disent, non, il faut remonter à Éphésiens, à cause de quoi? Eh bien, Éphésiens 1, Éphésiens 2, pourquoi on adore le Père? Pourquoi on fléchit les genoux devant le Père? Parce que il est venu, Jésus est venu annoncer la paix. Par lui, à Jésus, le sacrifice de Jésus, nous avons les uns et les autres accès auprès du Père dans un même esprit. Nous ne sommes plus des étrangers ni des gens du dehors. Nous ne sommes plus dehors. Nous sommes gens de la concitoyens des saints, gens de la famille de Dieu, de la maison de Dieu. Nous sommes de la famille. Et il y a un esprit d'appartenance. C'est là le prix énorme prié par Jésus qui voulait rassembler tous ses enfants dans sa maison. Et après, bien sûr, on est édifié sous le fondement des apôtres, etc. C'est à cause de cela qu'on adore le Père. Je fléchis, j'adore le Père. Alors, je vais vous le dire jusqu'à l'après parce qu'il est... Franchement, je nous encourage, enfin, moi je le sais déjà par cœur, mais à le dire. Il faut que cette épée réma de la parole, elle pénètre, elle rentre dans le cœur, dans l'âme, qu'elle fasse son travail. Vous savez, l'épée de l'esprit qui renverse les forteresses d'esprit d'orphelin, d'esprit de conception de solitude et tout ça, qu'on comprenne qu'on est vraiment de la famille de Dieu, que c'est énorme. Je vais le dire. À cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père. J'adore le Père. De qui elle tire son nom, toute famille dans les cieux et sur la terre. Afin que lui, le Père, nous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur, en sorte que Christ habite, demeure dans nos cœurs par la foi, étant enraciné, fondé dans l'amour. Deux termes très différents qui veulent dire chacun quelque chose. Enraciné, on est irrigué, enraciné, des racines qui nous irriguent de l'amour, et fondé, ça veut dire qu'on est construit. Il y a une construction très solide, inébranlable dans l'amour. Nous puissions comprendre par révélation, avec tous les saints, la largeur, la longueur, la profondeur, la hauteur, connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que nous soyons remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Or, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons, pensons, imaginons, à lui soit la gloire, dans l'Église, en Jésus-Christ, dans toute génération, au siècle des siècles. C'est énorme. Et que l'esprit fasse sauter tous les bunkers de forteresses, de faux raisonnements générationnels, ancestraux, culturels, nationaux, littéraires, enfin tout ce qui traîne dans notre âme, que vraiment toutes les forteresses soient démantelées par la puissance de la parole. On est en processus, hein, soyons très humbles avec ça, on est en processus, mais il y a cet amour du Père. Alors pour tout vous dire, je vais quand même, on est entre nous, hein, je vous dis, enfin, bon, quoi que c'est peut-être enregistré, mais bon... tant pis. J'avais pas du tout prévu d'être là pour un message, pas du tout, le premier dimanche des vacances, tranquille, hein, attention, tranquille. Sauf qu'un matin, je savais que le 12 février, bon, il n'y a personne là, en plus à l'aube, enfin, je ne suis pas du matin du tout, et je vous dis ce que j'ai reçu, amour ardent du Père, feu, puissance de vie, de multiplication, de destruction des œuvres de ténèbres, un fleuve, ouf. Tu prends le message. Hein, moi. À 8h moins 20, j'envoyais du matin, j'envoyais un mail à Mathé. Mathé, je prends le message. Il fallait vraiment, c'était du surnaturel. Bon, amour ardent du Père, tu veux que je parle de l'amour feu, la compassion feu de Jésus, du Père, bien sûr de Jésus avec. Moi, tu veux, moi, pour tout mon passé lourd, tu veux que je parle de ça? Le fou. Donc, oui, Dieu est amour. Dieu est amour, tout le monde sait. Théologiquement, tout le monde le sait. Mais cet amour, c'est du feu. C'est ardent. C'est destructeur pour les œuvres de ténèbres. Absolument destructeur. Jésus est venu afin de détruire les œuvres du diable. Et l'esprit d'Élie, il souffle, ça tout le monde sait. L'esprit d'Élie souffle très fort. C'est l'esprit qui animait Jean-Baptiste. Et c'est ce qu'a prophétisé Zacharie. Donc toi, petit enfant, là, actuellement, il y a l'esprit d'Élie qui souffle sur les nations. Tu seras appelé prophète du Très-Haut, tu marcheras devant la face du Seigneur pour préparer ses voies, afin de donner à son peuple la connaissance du salut par le pardon de ses péchés, grâce aux entrailles de la miséricorde de notre Dieu, en vertu de laquelle le soleil levant, le soleil de justice qu'on a chanté tout à l'heure, nous a visités d'en haut pour éclairer ceux qui sont assis dans les ténèbres et dans l'ombre de la mort, pour diriger nos pas dans le chemin de la paix. Grâce aux entrailles de la miséricorde de notre Dieu. Luc nous a beaucoup enseigné sur le fondement énorme, très 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 important de la bonté. Eh bien, on a rajouté une couche aujourd'hui, c'est la compassion. C'est encore différent, c'est des entrailles, c'est là que ça se passe, c'est les entrailles de compassion. C'est ça qui met Dieu en mouvement, c'est ces entrailles de miséricorde. Et alors que nous sommes dans un temps de très grandes ténèbres, très très grandes ténèbres, eh bien, ses entrailles de miséricorde, son amour brûle pour que tous soient sauvés, comme il a parlé. Il veut que tous soient sauvés, qu'aucun ne se perde. Et à qui il va communiquer ça? Ben, à son peuple, à nous. Et alors, l'esprit nous réveille, nous saisit et consume nos fausses conceptions. Alors, ce matin, je m'étais dans les vignes, un beau soleil dans les vignes. Hein. Et puis, il y a cette parole de Ésaïe 27. Hein. Moi, dit le Seigneur, je suis le gardien de ma vigne. Nuit et jour, je la garde. Je suis le gardien de l'église Josué. Je suis le gardien de l'église de France. Nuit et jour, moi, l'Éternel, j'en suis le gardien. Je l'arrose à chaque instant avec des messages, dimanche après dimanche, avec la parole, le Saint-Esprit. Je l'arrose chaque instant. Et pour qu'on ne l'attaque pas, nuit et jour, je la garde. Il est notre gardien. Il est vraiment notre gardien. Il n'a point en moi de colère. Mais si je trouve à combattre des ronces et des épines, je marche contre elles et je les consume tous ensemble par le feu. Enfin, ça n'est pas dit, mais oui, si c'est consumé, c'est forcément qu'il y a un feu. Le feu de la parole, le feu de l'esprit, tout ça ensemble. À moins qu'on ne me prenne pour refuge, qu'on ne fasse la paix avec moi, qu'on ne fasse la paix avec moi. Et Luc, tout à l'heure, nous a dit, Hébreux 12, hein, un feu dévorant. Un feu dévorant. Et qui est aussi le zèle et la jalousie de Dieu. On parle de la jalousie de Dieu, c'est un zèle d'amour, quoi, qui ne supporte pas que ses enfants ou sa création soit souillée, soit abîmée par autre chose. Il y a un feu. Et ça donne la crainte de Dieu, ça, ce feu. Hein. Je marche, je trouve à combattre des ronces et des épines. Je marche contre elles, je les consume tout ensemble. Tout ça, c'est par amour de sa vigne. Donc, il y a un feu, il y a un feu. Et puis, il y a ces entrailles qui mettent en mouvement Dieu. Alors, on connaît tous Luc 15. Hein, on connaît tous Luc 15, le fils prodigue. On connaît. Pierre Canga nous a enseigné, on a eu plein de choses. Et vous savez que c'est ce qui a mis en mouvement le Père, c'est la compassion. Il était ému de compassion et puis il a couru vers le fils prodigue. D'ailleurs, en ce moment, il y a des fils prodigues qui reviennent, je peux vous dire. Hein. Genre, on a deux anciens élèves, là, récemment, qui sont revenus. C'est trop bien. Il y en a un que j'ai vu chez Yuan, d'ailleurs, de fils prodigue qui est revenu. Là, il est beau. Il est très, très beau. J'étais très heureuse de le voir. Donc, les fils prodigues, il y a au moins deux prémices qui sont des bonnes prémices. Donc, on se prépare hein, pour le retour des fils prodigues. Et puis, voilà, il se court à se jeter. Ça, c'est vraiment cet amour, compassion du Père. Le frère aîné. Alors, le frère aîné, là j'ai des petites révélations. Il y a un verset que, même je crois qu'une partie de une certaine nuit, le verset, Luc 15, 31. Alors, je vais regarder dans le grec hein, pour être sûr de ce que ça disait. Évidemment, ma traduction n'était pas bonne. Donc je vous dis la vraie traduction du grec. Toi, mon enfant, Luc 15, 31, c'est le père. Hein. Vous savez, le fils aîné s'était énervé, il a accusé le père, son frère, tout le monde, il a accusé, pas content, il râlait. Et le père, qu'est-ce qu'il lui dit? Toi, mon enfant, tu es toujours avec moi. Tout ce qui est mien est tien. Il n'y a pas le verbe avoir en grec, c'est vraiment le verbe être. Tout ce qui est mien est tien. Alors, D'abord, vous remarquez qu'il n'y a pas d'autre verbe que le verbe être. Deux fois le verbe être en grec. Tu es toujours avec moi. La petite question insolite que peut-être vous n'avez jamais posée. Pourquoi il ne dit pas « je suis toujours avec toi » Jésus a dit à ses disciples « je serai avec vous jusqu'à la fin du temps ». Tu es toujours avec moi. Et moi, je vous propose une interprétation. C'est que le Père, en fait, il est très délicat. Il dit « mais il y a une invitation, c'est à toi de répondre à l'invitation ». Moi, je suis toujours disponible, mais c'est toi, la balle est dans ton camp, quoi. Tu es, c'est comme Apocalypse 3, hein. Je suis à la porte, je frappe, si quelqu'un entend ma voix, il y a une invitation du Père. C'est au Fils de dire, tu es toujours avec moi, c'est ta position, tu es toujours avec moi. Est-ce que tu vas réaliser, est-ce que tu vas prendre cette balle au bon, est-ce que tu vas entendre cette invitation, tu es toujours avec moi. Et tout ce qui est mien est tien. Ça veut dire, alors là, il n'y a pas de verbe faire, il n'y a rien. Ça veut dire qu'on n'est que dans l'identité, le être. Ton état, ton identité, c'est tu es avec moi, tu es avec. On est ensemble, ça parle de communion. Et après, il y a l'impartition. Communion, impartition. Tu es avec moi, tout ce qui est mien est tien. Et vous avez la même chose dans 2 Corinthiens 13, 13, hein, que la grâce de Jésus, la porte d'entrée c'est la grâce de Jésus, l'amour du Père et la communion de Saint-Esprit, la communication, l'impartition, l'échange entre le Saint-Esprit et nous, et de tout ce qui est du Père, des profondeurs du Père, c'est pour nous tout ce qui est mien et tien. Et je vous dis, hein, ce verset, il a dû travailler, parce que ça te confrontait là-dedans, ça confrontait. Donc tu n'es jamais seul, jamais, jamais, jamais. Tu es toujours avec moi, je suis toujours avec toi, on est toujours ensemble. Et tout ce qui est mien est tien. Et un peu plus loin, Paul dit, tout est à vous, tout est à vous. Et nous, on vit comme des mendiants, tout ça. Tout ce qui est mien est tien. Mais tout commence par la communion. C'est pour ça que le fils aîné, il n'avait rien compris, parce qu'il n'avait pas de communion. Donc forcément, tout ce qui est mien est tien, il ne pouvait pas le vivre. On est en communion, et après, tout ce qui est mien est tien. Et ça parle d'identité. Et Dieu veut restaurer l'identité. C'est un Dieu qui restaure, qui est jaloux même de cette identité. Alors, au-dessus, il y a les salles de classe où j'enseigne. Et cette semaine, alors je me suis régalée, franchement, prier pour la multiplication des écoles chrétiennes. Hein, parce qu'on peut dire, nous, des choses qu'on ne peut pas dire ailleurs. Et on ne se prive pas. Alors là, on y va. À mes élèves de lycée, j'ai dit, je me suis régalée de dire, c'était des lycéens, je vous rassure, hein, je n'aurais pas parlé comme ça à d'autres niveaux. Non, 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 vous n'êtes pas le produit d'une rencontre absolument aléatoire d'un petit spermatozoïde victorieux avec un ovule. Non, non. Vous êtes le produit, le fruit d'une idée géniale d'un Dieu qui n'a que des idées géniales. Dieu a une idée géniale, il crée quelqu'un. Et un collègue nous rappelait, c'est pour ça qu'on voit que Dieu a toujours de l'espérance parce qu'il continue à créer des bébés. Donc il y a une espérance, bien sûr. Voilà, parce que chaque fois qu'il a une idée géniale, il crée quelqu'un. Donc chacun de vous ici, vous êtes le fruit d'une idée géniale d'un Dieu qui n'a que des idées géniales. Vous êtes d'accord? Par principe, Dieu, théologiquement parlant, Dieu n'a que des idées géniales. Donc il crée quelqu'un. Bon, moi, j'ai eu beaucoup de temps à comprendre, mais petit à petit, je comprends que je suis quand même quelqu'un de oui, qui ne creuse pas une idée géniale de Dieu. Hein, c'est pas mal, hein? Et je le dis, parce que c'est la vérité, et puis vous aussi. Et puis, je vois mes élèves comme ça aussi. Chacun d'eux correspond à une idée géniale de Dieu. Alors, parfois, l'idée géniale, vous la voyez pas trop, c'est pas trop évident. Mais j'étais contente. Mon dernier cours, j'aurais pu faire quelque chose d'un peu créatif. Il y en a un, pas du tout scolaire, le gars, il vient en traînant. Vraiment pas scolaire pour un sou. Et puis, il a fait quelque chose de créatif. C'était une femme de La Fontaine. J'ai dit, waouh, je lui dis, hein, mais dis donc, t'as un don là, dans la gestuelle, dans la capacité à faire des vers, mais tu es douée, il y a quelque chose là. J'étais admirative, hein, émerveillée, enthousiaste. Alors lui était... Ah ben, je lui dis, non, mais il y a quelque chose là. Le même gars qui veut à mes cours, c'est comme si je n'étais pas là. Mais donc voilà, si on le sait, à part quand on cherche, c'est quoi ton idée géniale en me créant? Et puis si on le sait, alors là, identité, hein. Et la même chose, alors ça c'est pour nos élèves, c'est pour nous-mêmes, vous voyez, Béatrice, tu corresponds à une idée absolument géniale d'un Dieu qui n'a que des idées géniales. Hein? Et oui, si. D'ailleurs, tout à l'heure, j'avais une image, je vous la partage du coup, c'est que chacun de nous, on est membre d'un orchestre. Et puis franchement, on commence à bien jouer notre instrument. Je nous encourage, hein. Chacun de nous, c'est-à-dire on est aligné avec le ciel, on sent les subtilités du ciel. Pas que le groupe de louanges, hein, mais chacun de nous. Il y a un fonctionnement, une harmonie d'orchestre qui est très très sympa, qui ça va être très beau. Hein. Je suis sûre qu'il y a plein de gens qui vont venir après voir l'orchestre qu'on est tous, mais ça vient. Et puis, il fait pareil pour les nations. Vous êtes d'accord que quand il a une idée géniale, il crée aussi une nation. Alors, la nation de France, on est une nation géniale, oui. Alors, bon, après, il faut savoir laquelle. C'est une nation féminine, tout le monde sait ça. Et c'est une nation fondamentalement, bon, beaucoup, beaucoup de créativité, tout le monde le dit, hein, beaucoup de créativité, le sens de la beauté aussi. Et puis, des entrailles de compassion. Alors ça, c'est peut-être un peu moins évident, mais si on regarde l'histoire, oui. Elle a été créée avec des profondes entrailles de compassion et un cœur pour les pauvres, les veuves, les orphelins. Bon, on en a un lointain vestige avec notre sécurité sociale qui est quand même unique au monde, disons-le, hein, vrai ou pas. Sécurité sociale, c'est unique au monde, ça a été créé dans un magnifique élan de générosité après la Deuxième Guerre mondiale, disons-le quand même, c'est unique au monde. Donc il y a quand même des beaux, très très beaux restes de ces entrailles de miséricorde et de compassion pour les plus pauvres, hein. Un cœur pour les pauvres, les veuves, les orphelins. Est-ce que vous êtes prêts à monter avec moi dans la machine à remonter le temps? Ça va? On y va? Je fais ça aussi parfois avec les élèves. Bon, en plus, oui, c'est dans le même bâtiment, ça va. Alors, on part vers le 11e siècle. Ça va? Moyen-Âge. 11e siècle. Bon, il y avait des chevaliers. Enfin, des chevaliers, c'était un peu des brutes quand même. Faut le dire. Un petit peu des brutes. Hein. Mais heureusement, après, il y a une influence extrêmement civilisatrice et des femmes et de l'Église. Et puis, c'est devenu la chevalerie dans toute sa splendeur, la beauté de la chevalerie française. Et je cite le livre de l'ordre de la chevalerie, œuvre d'un bienheureux Raymond Lulle, qui date de 13e siècle, 1235 et quelques, extrait du livre de l'ordre de la chevalerie, le métier du chevalier est de défendre les veuves, les orphelins, les impotents, c'est-à-dire les handicapés, voilà. Le métier du chevalier est de défendre les veuves, les orphelins et les impotents. Et ça évoque quelques-unes des qualités du preux chevalier. Héros, guerrier, mais qui doit défendre. Et je rappelle qu'il était adoubé chevalier après une nuit de prière quand même, le gars. Hein. C'était sérieux. Ça, c'était vraiment quelque chose de très fort dans la chevalerie française. Puisque je crois que c'est cool. Je ne sais pas si c'est allé après ailleurs dans d'autres pays, mais en tout cas, c'est une valeur très, très évangélique, très biblique. Hein. Et puis après, bon, bah, ça s'est un petit peu édulcoré, tout ça, beaucoup édulcoré, les chevaliers se sont laissés aller, et puis c'était plus ça du tout, et puis après, vous savez, c'est exactement comme Israël, la France, hein. On est une nation vraiment voulue par Dieu, qui a fait alliance avec Dieu, et puis après, on fait du grand n'importe quoi, et on arrive à fin 14e, début 15e, et on a un grand prince de France, Charles d'Orléans, qui il se retrouve avec tous les autres jugés, quoi, c'est-à-dire exilés en Angleterre. Et là, il a fait un très très beau poème que je fais étudier aux élèves aussi, La Complainte de France. Et quelque part, ce Charles d'Orléans, ce prince de France, hein, il a tout compris de la situation de la France. Et voilà ce qu'il dit à la France. Donc il est en exil en Angleterre, il s'adresse à la France, à son âme. Hein. Il s'adresse c'est un prince. Il est responsable de son pays, enfin il aime son pays, il est exilé. Sais-tu d'où vient ton mal? Il parle à la France. Hein. Ne sais-tu pas pourquoi tu es triste? Je traduis en français courant parce que c'est du vieux français. Hein. Je vais te le dire. Écoute-moi et tu seras sage si tu écoutes. Ton grand orgueil, on est début 15e siècle, ton grand orgueil, ta gloutonnerie, ta paresse, ta convoitise, tes actions injustes, la luxure dont tu as abondance. J'ai dû expliquer aux élèves ce que c'était que la luxure, ils confondaient avec le luxe. La luxure dont tu as eu abondance ont obligé Dieu de te punir, très chrétien et franc royaume de France. Ne te veuille pourtant pas désespérer, car Dieu est plein de miséricorde à largesse. Va vers lui demander sa grâce, ta grâce, car il t'a fait cette promesse. Tu as un avocat, il sera joyeux de te guérir. Tu comprends? Vous vous rendez compte, cette révélation, Dieu sera joyeux de te guérir, mais en lui entièrement ta confiance. Pour toi et tous, vous tous, il a voulu en croix mourir. Très chrétien et franc royaume de France. Et voilà, il a écrit ça. En plus, en Angleterre, il lui avait dit, hein, c'est pas, nous les Anglais, on n'est pas meilleurs que vous, hein, les Français. C'est pas pour ça qu'on vous a vaincu. C'est juste parce que vous, c'est Dieu qui vous a jugé à cause de tous vos péchés, quoi. Même les Anglais étaient conscients de ça. Donc, vous savez comment ça se passe, c'est comme en Israël. Le peuple, il y a eu un cri qui est monté vers Dieu, et Dieu a envoyé un héros, un libérateur, quoi. En l'occurrence, ben, c'était une libératrice, hein. Mais ce qu'on sait mal, parce qu'il y a eu plein de récupérations religieuses, politiques, enfin, tout ce qu'on veut sur Jeanne d'Arc, mais quand on regarde vraiment, il y a beaucoup d'écrits, parce qu'il y a eu des minutes de son procès qui sont très qui sont enregistrées, qui sont écrites, consignées, donc on a beaucoup d'écrits sur elle, et elle nous dit que ce qu'elle a mis en mouvement, c'est vraiment la compassion de Dieu pour le royaume de France. Et puis c'est la jalousie aussi de Jésus. Elle disait, mais Jésus est le roi de la France. Elle a dit très fort, Jésus, c'est le roi de la France. Christ, voilà, Jésus-Christ est vrai roi de France, il n'abandonne pas son royaume. C'est ça qu'il a mis en mouvement, cette Jeanne d'Arc. 17 ans quand même, la fille. Hein. 17 ans, et puis après, vous savez, toutes les stratégies. Donc c'est une onction guerrière, hein, une onction guerrière, mais ce qu'il a mis en mouvement, c'est vraiment l'amour pour Dieu et l'amour pour le pays. C'est ça qu'il a mis en mouvement. Et jusqu'à la fin, son dernier souffle, ça a été Jésus. Hein. Donc, il y a un manteau de Jeanne d'Arc qui est énorme, qui est là, quoi. Il est toujours là, ce manteau d'onction de Jeanne d'Arc. En plus, alors, on continue. Alors, la France, qui de nouveau fait des grosses bêtises, et c'est les guerres de religion. Terrible, terrible, terrible. Et là, on a un autre poète. Ah oui, ce que je ne vous ai pas dit quand même, Charles d'Orléans, il a eu un fils, Louis XII. Donc quand même, il avait une bonne compréhension, une bonne révélation de Dieu. Hein. Et apparemment, il a bien élevé son fils Louis XII parce que c'était un très bon roi, très peu connu des livres d'histoire, mais un très bon roi qui était considéré comme un père par le peuple de France. Et les gens beaucoup pleuraient quand il est mort, Louis XII. Voilà, donc pour dire qu'il y a eu un temps de relèvement, de restauration de la France derrière ça. Alors après, c'était la déchirure énorme, énorme des guerres de religion. Je veux peindre la France, une mère affligée. Une mère, hein, toujours cette image de la France comme une mère qui est entre ses bras de deux enfants chargés, protestants, catholiques. Et alors, il y a un poème terrible, terrible, très violent, et qui dit, donc, elle perd son lait, le suc de sa poitrine, la France. Hein. Puis, aux derniers abois de sa proche ruine, elle dit, vous avez, félon, traître, hein, elle parlait des deux parties, vous avez, traître, ensanglanté ce qui vous nourrit, qui vous apportez. Vivez de venin, sanglante géniture, je n'ai plus que du sang pour votre nourriture. Ça, c'est les tragiques de Agrippa d'Aubigné. Et donc, un cri de désespoir, un cri un cri, quoi. Et puis, il y a eu, donc, la France était complètement, enfin, dans une situation épouvantable de misère, de famine, tout ce que vous voulez. Et puis, pareil, le Seigneur a trouvé un jeune avec un cœur de compassion qui pouvait recevoir la compassion de Dieu, vous voyez. Il l'a compris. Et puis, il a fait un travail extraordinaire. C'était de qui parlais-je? Après les guerres de religion, il est né en 1581 et puis quelqu'un qui a fait plein de choses incroyables. Cette vie, une vie d'une fécondité extraordinaire. Il a évangélisé les pauvres des campagnes. Il a envoyé des missionnaires jusqu'à Alger et à Madagascar. Il a levé tout un ordre au niveau au service des malades. Il a été aumônier des galériens, il s'est occupé des enfants trouvés, il a secouru les victimes de guerre, il s'est occupé d'éducation des enfants et des jeunes filles, il a organisé des retraites spirituelles où étaient ensemble toutes les classes sociales, les grands seigneurs comme les serviteurs, pour toutes les couches de la société, et il a su mobiliser, il a été le confesseur de Louis XIII, donc je parle de... Hein? Comment? Pas du tout, Saint-Vincent de Paul. Hospice pour les personnes. Il a été d'une fécondité... En plus, en se reliant aux autres, hein, en travaillant avec une dame, en touchant les grandes dames de la société, il a fait un travail fabuleux. Un petit, et puis il venait de loin, hein, c'était un petit berger des Landes, famille très 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 modeste. Mais voilà, la compassion de Dieu, ça a donné la créativité, les relations, plein de choses. Et il a considérablement aidé à relever aussi cette France qui sortait des ténèbres et d'une grande détresse, quoi. Je continue. Encore des bêtises de la France. Révolution française. Comment? Saint-Vincent de Paul. Voilà. Bon, il y a tout un système religieux qui à chaque fois récupère nos grands hommes de Dieu et femmes de Dieu, mais il ne faut pas se laisser impressionner par la récupération religieuse ou politique ou quoi que ce soit. Alors je continue. Grande bêtise de la France, c'est de nouveau la Révolution française. En Bretagne, c'est épouvantable parce que c'est la guerre civile, c'est la chouannerie, enfin, de nouveau terrible. La Bretagne était déjà pauvre, alors là, c'est terrible. Et puis là, il y a une petite fille, alors là, elle est orpheline, son père marin est mort en mer, évidemment. Il est mort en mer, famille pauvre, etc., etc. Et pareil, elle a un cœur, compassion du père, le Seigneur a trouvé quelqu'un. Et pour les plus pauvres des pauvres, c'est-à-dire les personnes âgées. Bien sûr, pas de sécurité sociale, personnes âgées, démunies, etc. Bon, j'abrège parce que c'est la fondatrice des Petites Sœurs des Pauvres. Mais pareil, c'est une petite fille qui juste la foi, et puis l'amour de Dieu, et puis elle écoute, et puis voilà, ça se fait, quoi. Et puis, pour vous dire, après, je termine rapidement avec la Bourgogne. Alors, pareil, une petite dame, j'ai quand même mis un homme, hein, Vincent de Paul, quand même. Hein. Après, des femmes. Et puis, je fais un effort. Et puis, une petite dame, là, elle se retrouve avec un grand cœur, déjà pour les enfants pauvres, qu'elle éduque, et après, elle a le cœur de Dieu pour la planète, elle. La planète. Et elle est propulsée en Guyane et elle s'occupe des Noirs esclaves. Et puis elle fait un travail énorme pour toucher les propriétaires des plantations, pour qu'ils les traitent mieux. Mais elle prouve, à son époque, elle prouve, il y avait des gros, gros verrous culturels, hein, et puis elle prouve que les Noirs, primo, peuvent travailler, et secondo, qu'ils sont tout à fait capables de s'en sortir quand ils sont libres. Donc elle a tout un travail d'éducation auprès des Noirs, affranchis, etc. Elle a libéré elle-même pas mal d'esclaves. Et puis elle est allée sur tous les continents, sur l'Afrique, Madagascar, etc. Un travail énorme, énorme. Une petite dame, là, de Cluny. Quand on va à Cluny, on entend parler d'elle. Donc voilà, on a des manteaux d'onction sur notre... Anne-Marie Javouet. Anne-Marie Javouet. Vous ne connaissez pas cette... et puis c'est pas fini, hein. Je regarde Échappée Belle samedi dernier, qu'est-ce que je vois? Oh, intéressant, une œuvre aussi pareille, c'était pour les jeunes filles sorties de la prostitution, on était en fin 19e siècle, et puis un curé qui a une idée géniale, il dit qu'on va réinsérer ces jeunes filles par le travail agricole. Et en plus, c'est une exploitation qui marche très très bien avec du bio et tout encore maintenant. Et donc, une idée géniale, créativité, mais tout ça vient du cœur du père qui est très 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 créatif, très fécond et rempli de compassion. Alors donc, pour vous dire que sur cette France, on a plein de manteaux d'onction qui sont là. Il n'y a plus qu'à les relever. Ils sont là. On a des semences incroyables dans ce pays, un héritage phénoménal qui a été en bénédiction à tous les continents du monde, parce que partout où la France est allée, c'était des hospices et des écoles quand même. Il n'y a pas eu que des mauvaises choses dans la colonisation. On a quand même fait beaucoup de bonnes choses. On a laissé beaucoup, beaucoup de martyrs quand même en Afrique, en Canada, etc. Il y a eu beaucoup, beaucoup de martyrs. Je rappelle que le martyr de Guebwiller, c'était la Chine. Donc, beaucoup de sang versé, beaucoup de dons de soi. Et la racine, c'est la compassion de Dieu. C'est la compassion du Père. Et alors, la bonne nouvelle, c'est... Alors ça, c'était des personnes individuelles, si vous voulez. Bon, après, elles levaient des congrégations, elles levaient des tas de gens derrière. Mais là, on a quelque chose d'autre qui se passe. Et je voudrais venir dans ce temps où on est. Le Seigneur, il ne lève pas des personnes comme ça, individuelles. Non, non, non. Ça a été prophétisé, annoncé, puis la parole le confirme. On est dans un temps d'une levée d'un tout un peuple, la fameuse génération sans visage, vous savez, qui est animée par... Alors, vous allez voir. Psaume 68. Et vous allez voir que Dieu se lève. Il se lève comment? Il se lève en nous. Dieu réveille l'esprit en nous. Dieu se lève, et après, vous voyez très bien qui est ce Dieu. L'Éternel est son nom. Verset 6 du psaume 68. Le père des orphelins, le défenseur des veuves, c'est Dieu dans sa demeure sainte. Dieu donne une famille à ceux qui étaient abandonnés. C'est ce Dieu-là qui se lève. Le Dieu de compassion, le Dieu de famille, c'est lui. Il délivre les captifs, les rend heureux. Bon, il n'y a que les rebelles qui demeurent dans les lieux arides. Mais c'est le Dieu qui est jaloux, le Dieu de compassion qui se lève, et c'est lui qui se lève dans toute son côté terrible, parce que la jalousie de Dieu, l'amour de Dieu, c'est aussi un feu dévorant, très dévorant. Et alors que notre jeune génération est pilonnée, mais d'une manière terrible actuellement, pilonnée et par les avortements, et par les fausses identités, on va leur faire croire du grand n'importe quoi à nos pauvres jeunes, et ils sont pilonnés d'une manière terrible. Il y a une jalousie de Dieu, il y a un amour de Dieu qui cherche son peuple à embraser, quoi. parce qu'il veut détruire ses œuvres de mensonges, de ténèbres, etc. Et les chars de l'Éternel se comptent par 20 000. C'est un peuple qui comprend qu'il y a une armée céleste et qui marche en harmonie avec l'armée céleste. Les chars de l'Éternel se comptent par 20 000, par milliers. Le Seigneur est au milieu d'eux. Le Sinaï est dans le sanctuaire. Et après, il y a un positionnement, il y a un ordre de Dieu. Il voit ta marche, ô Dieu. Alors, on parlait de la marche il y a 15 jours. Oui. La semaine dernière, on parlait de la marche. Et là, c'est la marche d'un peuple entier. Il voit ta marche, ô Dieu. Et là, il y a un ordre. Il y a vraiment un ordre. On a parlé, chacun a une position. Et on est dans ce temps où chacun comprend quelle est sa position et tient la position et est sûr de son identité. Il est dans la famille de Dieu, il est sûr de lui, il a de l'assurance et il sait qui il est. Et puis, il y a un ordre de Dieu extraordinaire. En fait, ils font les chanteurs, ceux qui jouent des instruments, au milieu de jeunes filles battant du tambourin, ça part aussi des danses. Donc, en tête, contre les ennemis, c'est ce que tu nous disais, l'ennemi là, contre les ennemis, il y a quoi ? Il y a d'abord les adorateurs, les chantres, les louangeurs, les danseurs. Ils sont en première ligne. Ça, c'est l'ordre de Dieu. Et après, le psaume 78 nous cite quatre tribus, pas 12. Benjamin, le plus jeune, domine sur eux. Les chefs de Juda, les chefs de Zabulon, les chefs de Naphtali. Alors, peut-être que vous n'avez jamais posé la question. Je dis, pourquoi 4 tribus et pas les 12 ? Alors, ça ne veut pas dire que les autres sont rejetés, hein, mais chaque tribu, vous savez, ça représente des facettes de Dieu particulières. Hein. Hein, en Jésus, on a toutes les tribus quand même, hein, même si on est des dominantes, on a quand même tout en Jésus. Donc, c'est des dominantes. Pourquoi ces 4 tribus-là ? Alors, je vous dis ce que j'ai trouvé. Pour ces temps à venir, pourquoi ces 4 tribus sont des facettes spéciales ? Alors, Juda, évidemment, Juda, tout le monde sait, hein, c'est la royauté. Et c'est la louange, et c'est le combat. Et Juda, c'est Caleb aussi qui prenait du territoire, c'est la conquête du territoire. Donc Juda, la conquête du territoire, la royauté, la louange, ça c'est Juda. Ensuite, vous avez Zabulon. Bon, Zabulon, c'est pas dit, mais il va toujours avec Issachar. Zabulon, c'est les expéditions, les sorties. Es-tu Zabulon, nous dit Deutéronome 33 dans tes textes sorties. Ça parle de l'évangélisation, ça parle de l'impact dans la société. Il est toujours lié à Issachar, qui lui est dans les tentes. Et les tentes, si on regarde Paul, le faiseur de tentes, ça parle de la construction des églises locales. Donc, Zabulon, il touche la société. Issachar, il s'occupe de construire tout le monde dans les tentes. Et tous les deux appellent commun, appeler les gens sur la montagne de la présence de Dieu. Et on continue tous à grimper. Hein. Voilà. Et Naphtali, Naphtali, pourquoi Naphtali ? Donc, je répète, hein, Zabulon, impact dans la société, évangélisation, c'est tout à fait adapté pour cette époque, ce temps. Et puis construction de l'église locale en même temps. Naphtali, Deutéronome 33 nous renseigne, il est rassasié de faveur, comblé de bénédictions d'Éternel, et il prend possession de l'Occident et du Midi. Donc Naphtali, c'est la conscience, l'assurance qu'on est l'objet de la faveur divine et que tout est à nous. On est dans cette identité, on a la faveur de Dieu. Ça, c'est Naphtali. C'est bien, on a besoin de ça aussi, hein. Et puis on a besoin de toutes les faveurs et on est comblé de bénédictions. Vous avez tout en Christ, toutes les bénédictions nous sont acquises. Voilà, ça c'est Naphtali. Et je termine quand même par le moindre, c'est Benjamin. Le quatrième c'est Benjamin. Alors Benjamin, eh bien Deutéronome 33, 12. Alors je vais tout vous dire, pourquoi Deutéronome 33 ? Parce que la Bible explique la Bible, hein. Et puis, dans une autre balade, j'ai vu à une tombe de Jungos, cimetière juif, il y avait écrit Deutéronome 33, 12. Mais pas le verset, je dis, c'est quoi ça ? Comme des devinettes, vous savez, le Seigneur qui met des petites devinettes comme ça. Pourquoi Deutéronome 33, 12 ? Donc, c'était, voilà. Donc, ça nous dit, ça parle de Benjamin. Et le Benjamin, il nous dit, dans Deutéronome 33, 12, si j'arrive à... Dans Deutéronome 33, 12, oui, c'est ça. Sur Benjamin, il dit, c'est le bien-aimé de l'Éternel. Il habitera en sécurité auprès de lui. L'Éternel le couvrira toujours. Résidera entre ses épaules. Et Benjamin, on dit que c'est le jeune, mais il domine. Alors, une interprétation, c'est qu'effectivement, sur la jeune génération, il y a quelque chose de très, très puissant, un appel puissant, et c'est confirmé. Hein. On sait que sur les jeunes générations qui se lèvent actuellement, il y a un appel vraiment très, très fort. Mais Benjamin, c'est aussi, ça parle de pour nous tous, c'est le bien-aimé de l'Éternel. Il habite en sécurité auprès de lui, l'Éternel le couvre toujours, et ça parle de la communion. Ça parle de l'intimité. Ça parle de la protection, psaume 91, et ça parle de la communion. Et il y a un appel très très fort de Dieu pour chacun de nous. Oui, on peut faire des sorties guerrières, on peut conquérir du territoire, tout ça, mais la priorité, la première chose que Dieu nous demande, c'est communion avec lui. Communion avec lui. Et alors, Fabienne Ponce, elle donne des enseignements là-dessus, sur la communion. Et puis, elle nous dit, avec son langage très, très accessible, elle nous dit, écoutez, dans les entreprises, il y a des pauses clopes. Non, pas pour nous, hein. Nous, on n'a pas de droit aux pauses clopes. Il y a des pauses café. Au Daniel, il y a toujours des pauses gâteaux, parce qu'il y a toujours plein de gâteaux à la salle des profs. Eh bien, faites-vous des pauses union, des pauses communion, voyez. Et en plus, on a des magnifiques canapés au Daniel, on pourrait bien se faire des pauses communion. Je suis en pause union. Tu ne me déranges pas, je suis en pause union. Et vous rentrez en vous-même, moi je fais ça souvent à la sieste, vous rentrez en vous-même et vous avez un cœur à cœur avec le Père, tranquille, quoi, vous voyez ce que je veux dire. Et elle nous disait, surtout quand votre travail, c'est genre fin du monde, terrible, terrible, faites-vous une pause union. Et puis que ce soit un style de vie, les pauses union. C'est le battement de cœur de Dieu. On rentre dans sa présence, on se pose. Oui, tout va bien, tout va bien. T'as vu comme c'est agité? Tout va bien. Et on est dans la paix parce qu'on est le temple de Dieu. Donc en nous, il y a un monde, quoi. Il y a la présence de Dieu et puis c'est paisible. Et puis il y a la joie et puis plein de choses. Donc rentre en toi-même. Ferme la porte derrière toi, vous savez. Hein, voilà. Et puis on rentre dans cette pause union. Donc il y a un équilibre à avoir. Bon, je crois que je vais. Mais le Père désire vraiment, vraiment, dans cette communion, il nous impartit de lui. Quand on l'adore, on devient comme il est, tel il est, tel nous sommes dans le monde. Et donc on est transformé de gloire en gloire à son image. Et je crois qu'il y a quelque chose d'énorme qui vient sur le pays. Alors que nos forteresses de faux raisonnements, nos forteresses de fausses images de lui tombent, eh bien il y a quelque chose de grand qui se lève dans la créativité, la communion, plein de choses, un fleuve qui coule. Daniel 7 nous dit qu'il y a ce qui coule de l'Ancien des Jours, c'est un fleuve de feu qui est redoutable, ça crame le bois, le foin, le chaume, ça crame. Mais c'est le fleuve de gloire aussi, de bonté de Dieu. Voilà, donc le meilleur est devant nous, le Seigneur il va pas cesser jusqu'à ce qu'il ait restauré l'identité de ce pays et de notre vie à chacun et de son Église de France. Et on est rempli d'espérance. Et voilà. Et je voulais juste peut-être terminer par la prière. Si j'ai encore un petit temps. Ah oui. Je voulais terminer juste par la prière. Oui, c'est ça. Seigneur, consume en nous tout ce qui peut rester encore. Toi, tu nous connais, tu nous sondes, tu nous connais beaucoup mieux que nous-mêmes. Tu sais, dans les arrière-fonds, dans les arrière-chambres de notre âme, de notre être intérieur, de notre inconscient, conscient, surconscient, tout ça. Tu sais tout ce qui peut rester de faux concepts, de faux raisonnements, de fausses images qui nous séparent de toi. Tu sais aussi tout ce qu'on traîne de notre nation, tout ça, l'esprit d'orphelin, tout ce qui va avec, l'insécurité, agir par ses propres forces, la confiance en l'homme, tout ça. Et tout ce qui provoque aussi la fermeture de nos entrailles, tout ce qui bloque la compassion, tout ce qui empêche les sources du ciel de couler de nous, de ton Église. Alors Seigneur, vraiment continue à faire du grand ménage en nous, Saint-Esprit. N'arrête pas dans ta grâce et va jusqu'au bout de cette œuvre de restauration profonde de notre identité, de l'identité de l'Église, Seigneur. On veut exprimer, manifester le Père, Seigneur, dans tout ce qu'il est. On veut l'exprimer, le manifester à ce monde qui en a tellement besoin. Tellement, tellement. Et toi, tu as des entrailles de miséricorde, de compassion. Tu veux sauver ce monde. Alors ne permets pas qu'on soit des Jonas qui nous précipitons à l'opposé de la direction où tu veux aller, mais qu'on soit une église selon ton cœur pour exprimer qui tu es. Merci Jésus, dans ta fidélité, tu le fais. Et on le dit pour nous tous, pour tous ceux qui seront au séminaire la semaine prochaine aussi, pour qu'il y ait une multiplication de tes œuvres de miséricorde, dont les écoles chrétiennes aussi, et plein d'œuvres de miséricorde dans ce pays. Amen. Amen.